I grew up in front of my TV, in front of my VCR in Brampton, Ontario. So to meet TIFF is like the coolest thing ever.
That's so great.
And it's going to be my first year as a member.
Amazing.
So can you give me like some tips so I don't do it wrong?
All right, so you're a member. So you're blocking off the time to see the festival.
Yes?
Okay, great. Good. Go through the list of films, find the ones that you love, and then never forget to choose something you know nothing about. You don't know the director, you don't know anybody in it. Find from a country you've never seen a movie from before. Make sure you see at least a couple of those.
What is this place?
Qu'est-ce que café ici? Bonjour.
Je ne parle pas de français. I'm sorry.
No, that's okay. La nuit se traîne. La nuit non plus. Et j'attends. Son mari, il sait tout, c'est qu'elle est. La nuit ne finira donc pas.
C'est ta blonde? Ça va-tu rester longtemps? C'est quoi la femme? Je suis en train de me faire rejeter par un quarantenaire neuroatypique?
You really have everything to be happy.
When you choose a path, you don't get to see the other ones.
Je me sens bien ici.
Is this the end?
I really don't know.
There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the Francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
C'est l'histoire de Luc qui, arrivé à la piscine, s'aperçoit qu'il n'a pas son maillot de bain et ses lunettes de natation.
De Clara, qui n'a pas eu le temps d'acheter son bonnet de bain.
Ou encore de Nathalie, qui a oublié les brassards et les couches bébé nageurs de son fils.
Mais tout cela, c'était avant l'arrivée des distributeurs automatiques de natation Swind.
Top Sec Equipement propose un concept exclusif. Swind, le distributeur automatique d'articles de natation de qualité, à prix très attractif. Disponible dans toutes les piscines de France.
Youhou ! Info sur la page Facebook Top Sec Equipement.
Pour la rentrée 2025 à 2026, Popourri Show confirme son ambition de rester une référence incontournable de la francophonie d'ici et d'ailleurs. 2025-2026, des nouveautés, des débats, des coups de cœur, des coups de gueule, de nouvelles voix et du renfort avec les podcasts du Crefo. Les rendez-vous de Ciné Franco, les projets et initiatives visant les communautés immigrantes francophones de la région de Welland et du Niagara, avec nul autre que Sophie Franc. Les projets de Français du Monde à Toronto, les rendez-vous et nouveautés littéraires de la communication et les éditions prises de parole. Le journal d'Haïti et des Amériques avec RFI et France 24, les visites guidées du Musée Royal de l'Ontario, la playlist de nos DJ et de Tolalito Music, et les enjeux et défis de la francophonie et de l'intelligence artificielle. Singulière et plurielle, Popourri Show assume son rôle de repère dans un contexte d'incertitude démocratique. Plus de détails sur popourrishow.com. Et si vous souhaitez être parmi nos partenaires, une seule adresse, popourri@cut.fm. Et pour vous donner une idée de ce que vous attend 2025-2026 sur notre antenne, en voici un extrait.
On ouvre donc avec ces arrestations au Mali, dans les rangs de l'armée. Des arrestations qui se sont poursuivies dans la nuit de dimanche à lundi. Au moins une cinquantaine de militaires, dont de hauts gradés, arrêtés en 4 jours. Accusés de tentative de déstabilisation de la transition. À ce stade, toujours pas de communication officielle des autorités de transition sur cette affaire. On fait le point avec notre correspondant régional, Serge Daniel.
Les arrestations se sont poursuivies dans les rangs de l'armée malienne dans la nuit de dimanche à lundi. Des proches d'un officier de la garde nationale, un corps de l'armée témoigne, deux pick-up remplis d'hommes en armes sont arrivés devant notre maison. Ils ont demandé à voir le colonel et sans le brutaliser, ils sont repartis avec. D'après nos informations, une cinquantaine de militaires sont aujourd'hui aux arrêts. Parmi eux, un nombre important d'éléments de la garde nationale qui est le corps d'origine du ministre de la Défense, le général Sadio Camara, poids lourd de la junte. Ce n'est pas lui qui mène les opérations, c'est la sécurité d'État du Mali, les services de renseignement dirigés par un autre poids lourd de la même junte. Toujours aucune réaction officielle, mais après avoir démenti les arrestations sur les réseaux sociaux, des activistes maliens proches des militaires annoncent que bientôt les autorités vont s'exprimer sur la situation. Contacté par nos soins, une source militaire malienne confirme, les militaires aux arrêts sont soupçonnés d'avoir voulu déstabiliser la transition. Au moins 2 généraux sont sur la liste des désormais détenus.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarii. Certes,
sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs. Pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs, parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutif, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres est livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rempart à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Et même s'il pleut, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. De la Côte d'Azur à Saint-Malo.
L'été sera chaud sur CUT 89,5 FM à Toronto. Emmenez Popourri Chaud et CUT FM dans vos valises en faisant le plein de podcasts inédits de nos partenaires au CREFO, Université de Toronto. Et les incontournables festivals et suggestions de voyage dans un des pays membres de la francophonie. Tout l'été, la musique résonne au rythme de la playlist de RFI et de la Little Music. Découvrez tous nos jeux concours et les rendez-vous de l'été de nos partenaires sur popourrichaud.com. Nos sincères remerciements au Musée Royal de l'Ontario, le Festival Compass de l'Ontario, le CREFO, Ciné Franco, Afrofest 2025, Apéro Chic. Oui, oui, l'été sera chaud avec des cadeaux, des surprises, des t-shirts et des casquettes de CUT-FM. Inscrivez-vous immédiatement en m'envoyant un message à popourri@cut.fm. Été 2025, 40 degrés à l'ombre. Une présentation d'Éric Adair et DJ Devera. Mesdames et messieurs, bonjour. En direct de Bluffers Park, l'une des plus belles plages de Toronto. Un endroit très prisé les week-ends, surtout en été. Et j'ai le plaisir de vous présenter cette émission en direct. Programmation estivale vibrante tout au long de l'été. On vous présente, comme toujours, la revue de presse et des magazines de nos médias partenaires. Les grandes expos de l'été, les festivals de musique et le festival TIFF Cinéma à Toronto. Et oui, j'ai quelques paires de billets pour vous, madame, monsieur. Vous m'écrivez à popourri@cut.fm. Les événements culturels, les histoires et les potins de monsieur et madame Ledoux seront au menu tout au long de l'été. Et les humoristes qui mettront leur grain de sel et une bonne dose de boisson rafraîchissante des tropiques. Et oui. Nos amis d'Apéro Chic vous invitent chaleureusement à Saint-Tropez le mercredi 20 août de 18h30 à 23h. Ça promet, soirée glamour en blanc sous les étoiles de Cabana Pool Bar qui vient d'être rénovée. Une paire de billets à la première personne qui m'écrit à popourri@cut.fm. Tous les détails sur popourrichaud.com. Rendez-vous à Saint-Tropez le 20 août. Soyez-y. La journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, commémorée par l'UNESCO chaque année le 23 août, fera partie de nos prochaines émissions en partenariat avec le Centre culturel Images, Création, Interprétation, ici, basé à Montréal. C'est tout un honneur de travailler avec eux dans le cadre de leur 5e édition. Festival Souvenir du 14 au 30 août à Montréal. Nous entendrons la voix de la porte-parole, Madame Chantal Ismay. Plus de détails sur www.ici-theatre.ca ou popourrichaud.com. Et pour la petite histoire, pendant plus de 400 ans, plus de 15 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été victimes de la dramatique traite transatlantique des esclaves. L'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. L'esclavage est aboli le 1er août 1834 dans la plupart des possessions britanniques, Caraïbes, Afrique du Sud et Canada. Africville, à la Nouvelle-Écosse au Canada, a été désignée comme lieu de mémoire lié à l'esclavage par l'UNESCO. Gagnez vos places au TIFF, le premier long métrage de la réalisatrice belge Cato Kosters, baptisé Julian, bénéficiera d'une première projection mondiale en septembre prochain au Festival du film de Toronto. Le film Julian est basé sur le livre éponyme de l'écrivaine belge Fleur Pierret et raconte l'histoire de deux femmes follement amoureuses qui décident de se marier dans chaque pays qui l'autorise. Cato Kosters, âgée de 26 ans, devient ainsi la plus jeune belge à présenter un film lors du célèbre Festival canadien. Le Festival de films de Toronto se déroulera du 4 au 14 septembre et Julian sortira dans les salles belges, si vous êtes en Belgique, le 29 octobre prochain. Devoir de mémoire, décoloniser la mémoire. Le 23 août, souvenir de la traite négrière et de son abolition. Nous avons le plaisir de recevoir un nouveau partenaire, Image Création Interprétation, un centre culturel de Montréal regroupant des artistes passionnés qui ont à cœur de mettre en avant les arts de la scène. Et il nous invite à la 5e édition du Festival du Souvenir, qui se déroulera du 14 au 23 août au quartier Ahuntsic à Montréal. Le festival fut institué à Montréal en 2020 pour souligner la date de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, commémorée chaque année le 23 août par l'UNESCO. Le Festival du Souvenir offre au public une semaine de réflexion et d'activités culturelles sur la mémoire de l'esclavage et la culture des peuples racisés. Du 23 au 30 août, rejoignez-nous pour célébrer la mémoire à travers des expositions, projections de films, des conférences inspirantes, des rencontres interculturelles et des émissions spéciales sur CUT 89,5 FM. Et cette année, Monsieur France Benjamin, écrivain, poète et homme politique profondément enraciné dans le monde culturel, assumera le rôle de président d'honneur. À ses côtés, Madame Chantal Ismay, féministe, militante politique, sociologue, urbaine et chercheur communautaire, assumera avec conviction le rôle de porte-parole de cette 5e édition résolument tournée vers la justice historique et la revalorisation des mémoires marginalisées. La présence de ces deux personnalités inspirantes promet une programmation vibrante, porteuse de sens et d'engagement. Le Festival du Souvenir, 5e édition, à retrouver sur www.ici-théâtre.ca ou popourishow.com. Voici un message de Madame Chantal Ismay, la porte-parole de la 5e édition du Festival du Souvenir du 23 au 30 août à Montréal.
Je suis Chantal Ismay, porte-parole de la 5e édition du Festival Souvenir. Un festival organisé par le Centre culturel ICI, Image, Création, Interprétation. Ce festival se veut un rappel à sortir de l'oubli institutionnel, à refuser les récits tronqués, à faire place aux voix qu'on a trop longtemps réduites au silence. Donc, venez découvrir des artistes de différentes disciplines, des penseurs, des penseuses, des chercheurs, des chercheuses, des poètes, des descendants et des descendantes de personnes esclavisées. Il y aura une programmation riche que, à travers leurs œuvres, ces personnes vont essayer de reconstruire les fragments de cette mémoire éclatée. Donc il y aura du théâtre, des conférences-débats, des journées de rencontres interculturelles, des expositions d'art et plein d'autres choses. Donc du 14 au 30 août, je vous invite à venir prendre part à toutes ces activités qui sont gratuites ou à contribution volontaire, histoire de se rencontrer dans ce lieu rare où l'art est politique, où la parole est réparation et où la mémoire est résistance. C'est un festival pour se relier, se transformer, se souvenir avec lucidité. Et ça, c'est très important. Il ne s'agit pas seulement de mémoire haïtienne ou africaine, mais d'une mémoire humaine partagée par toutes et tous que nous devons reconstruire ensemble. Donc, rejoignez-nous pour faire de ce festival un lieu de parole, de catharsis, de vérité et de beauté. Pour plus d'informations sur la programmation, consultez le site web de ICI au www.ici-théâtre.ca. Ensemble, décolonisons la mémoire.
Yo tire chaîne là, pour nous pas babiller. Yo tire chaîne là, pour nous pas ous péter. Yo tire chaîne là, pour yo régler le monde. Mais en vérité, nous toujours qu'à travailler pour yo. 1848, l'esclavage fini. En bas tout colon, nègre la libéré. Parité café, parité coton encore. Et en vérité, nous toujours qu'à travailler pour yo.
Yo tire chez là, pour nous pas habiller. Yo tire chez là, pour nous pas vous péter. Yo tire chez là, pour yo faire le monde. Et en vérité, nous toujours qu'à travailler pour yo.
Yo mettez nous l'école, yo apprenne nous parler français. Nous pas illettrés, et c'est mais yo aime nous. Yo ba nous livio, c'est pour défendre intérêt yo. Pas sans vérité, yo toujours qu'à couillonne nous. Nous mêlé.
Yo tire chez nous, pour nous pas habiller. Yo tire chez nous, pour nous pas vous péter.
Encore merci bonnet, nous pas niveau la tête tremblée. Encore merci bonnet, nous pas ni épidémie. Encore merci bonnet, nous pas connaître la famine. Ouais, misère pas mort, c'est yo qui ka kou mandé.
Yo tire chana, pour nous pas habiller. Yo tire chana, pour nous pas vous péter. Yo tire chana, pour yo régler le monde.
Ba nous le clergé, pour nous pas réfléchir. Yo ba nous la télé, pour nous pas rassembler. Yo créé chômage, pour nous être à la merci. Pas sans vérité, yo les nous dépendent de yo.
Yo tire chez là, pour nous pas habiller. Yo tire chez là, pour nous pas vous péter. Yo tire chez là, pour yo régler le monde.
Le 23 août marque la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. L'occasion pour l'UNESCO de se pencher sur les causes, les modalités et les conséquences de cette tragédie. Pendant le XVIIIe siècle, les régimes impérialistes dirigés par les puissances coloniales d'Europe ont eu recours à cette pratique cruelle qui a réduit des peuples d'Afrique et d'Asie à l'état d'esclaves. Ces êtres humains ont été achetés, vendus et transportés vers les colonies d'Haïti, des Caraïbes et d'autres régions du monde. Le 23 août 1791 commémore la nuit de l'insurrection qui a mené ensuite à l'abolition de la traite négrière. Le soulèvement qui a eu lieu à Saint-Domingue, actuelle Haïti et République dominicaine, a inspiré la révolution haïtienne menée par les Noirs et les Métis contre les dirigeants coloniaux.
Entre le 16e et le 19e siècle, 25 000 convois d'environ 300 à 450 captifs africains traversèrent l'Atlantique après 40 à 50 jours de périple vers les Antilles. Pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans ces colonies, l'Europe a déporté plus de 14 millions de captifs de diverses nations africaines, dans le seul but de les exploiter dans des plantations. Il convient de retenir que c'est essentiellement par la violence que l'esclavage survécut pendant les 4 siècles qu'il dura dans les colonies européennes. Les besoins économiques et sécuritaires des esclavagistes les firent utiliser toutes les atrocités possibles pour intimider cette population servile dont ils craignaient les réactions. Mais la patience humaine a des limites. Liberté,
m'appelle Aline Diaye, alias Webster.
Je vous ramène dans le temps pour quelques instants.
Je suis un artiste hip-hop de la ville de Québec.
Québec au moins 10 000 esclaves au Canada.
Je donne des conférences, des visites guidées, le livre, le grain de sable.
Jusqu'à l'abolition de ce droit en 1833.
Le rappeur historien de Québec, Webster, a conçu et organisé une exposition au Musée national des beaux-arts de Québec pour faire découvrir l'histoire méconnue des esclaves en Nouvelle-France et pendant le régime anglais.
L'objectif de cette exposition-là, c'est de mettre de l'avant cette identité, c'est-à-dire mettre de l'avant ces hommes, ces femmes, ces enfants qui étaient considérés comme des esclaves, mais qu'on ne peut pas enfermer historiquement dans ce statut d'esclave. Ils sont autre chose que des esclaves.
Il a fouillé dans les journaux de l'époque et découvert des perles dans les petites annonces.
Bon, j'ai à vendre une génisse, un nègre, un baril de mélasse. Donc, ce sont des gens qui sont considérés comme des objets, comme des biens meubles.
Certains esclaves en fuite étaient identifiés et soigneusement décrits dans des avis de recherche publiés par leur maître. Webster a choisi de mettre l'accent sur une dizaine d'entre eux.
Joe, pour moi, c'est vraiment la figure de cette exposition-là parce que Joe se sauve tout le temps. Et je pense, admettons, à Belle qui s'est enfuie nu-pied, Bette qui s'est enfuie enceinte. Donc, des gens qui, finalement, ont dû avoir du courage. Donc, je pense entre autres à Nemo et Cash. Cash qui s'est sauvé avec plusieurs vêtements et c'est annoncé dans l'annonce. On dit qu'elle va probablement changer son habillement. Je pense à André qui, lui, se sauve. On l'annonce comme ayant les faux certificats de sa franchise et faux passeports. Et donc, lui a fait ou s'est fait faire des documents pour se faire paraître comme étant une personne libre.
Le premier esclave connu et recensé en Nouvelle-France est un certain Olivier Lejeune. Capturé à Madagascar et emmené par des Anglais au début du 17e siècle, tel que le raconte Webster dans son livre illustré par son ami Valmont.
Dès l'arrivée européenne ici, il y avait une présence noire aussi. Et donc, c'est le travail que j'essaie de faire, en fait, c'est de remettre la lumière sur ces pans méconnus et donner un portrait qui, ma foi, est plus juste de notre histoire.
L'esclavage a commencé de manière informelle en Nouvelle-France en 1629. Des Amérindiens offraient parfois aux colons français des ennemis autochtones capturés qu'ils avaient asservis. Après la conquête britannique, la pratique s'est élargie avec l'arrivée d'esclaves noirs provenant des Antilles et des colonies américaines. En tout, près de 4200 esclaves ont été recensés ici. Deux tiers d'entre eux étaient autochtones, les autres afro-descendants.
En 1709, il y a l'intendant Jacques Rodeau qui émet une ordonnance pour dire que si vous achetez un noir ou un indien, il vous appartient en pleine propriété. C'est ça qui a légalisé l'esclavage en Nouvelle-France.
Je l'ai vu avec son amant!
C'est elle qui a mis le feu!
Marie-Angélique, esclave noire, accusée probablement à tort d'avoir incendié Montréal, est pendue en 1734.
Sous la torture, j'ai dit que c'était moi.
Aujourd'hui, sa mémoire est évoquée dans divers spectacles présentés dans le Vieux-Montréal. La ville et le gouvernement du Québec lui ont rendu hommage en nommant un parc à son nom.
C'est pas rare pour les Noirs, c'est que c'était un bouc émissaire. C'était une femme, elle avait de la gueule, elle était un peu maussade. Ben, c'était la candidate idéale. Quand le feu a pris, c'est elle.
À partir de 1802, l'esclavage disparaît progressivement. Les autorités cessent de poursuivre les esclaves en fuite.
Et c'est à partir de ce moment-là que les esclaves et les esclavagistes, les maîtres d'esclaves, ont compris que si ça durait, ça voulait dire qu'on ne pouvait plus avoir d'esclavage. Les maîtres n'avaient aucun contrôle sur leurs esclaves si les esclaves pouvaient quitter n'importe quand.
Même si ces esclaves ne sont pas mes ancêtres à moi, il y a tout de même une filiation de cette universalité noire-là. Tu sais, la race, c'est une construction sociale. C'est pas une réalité biologique. Et cette construction-là sociale a un impact sur nos vies. Et c'est la raison pour laquelle c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup.
C'est ça.
La mémoire de l'esclavage au Canada s'est diluée avec le temps et les métissages. Ce qui explique peut-être que des gens comme Webster, aux origines africaines métissées, insistent pour faire revivre ce pan d'histoire commodément oublié.
Malgré ce que plusieurs personnes pensent, il y a bel et bien eu de l'esclavage ici, au Québec et au Canada. C'était un esclavage qui, pour la plupart, concernait les autochtones. Donc, on parle de 4185 esclaves répertoriés dans notre histoire. Le terme ici important, c'est répertorié, parce qu'il y en avait probablement plus, mais on a retrouvé les noms de 4185 esclaves. Sur ce nombre-là, les deux tiers étaient autochtones et le tiers était noir. Et la plupart de ces esclaves travaillaient dans les maisons. C'était des esclaves serviteurs, des esclaves de maison, comparés au reste des Amériques où l'esclavage était, pour la plupart du temps, un esclavage économique, un esclavage de plantation. À partir du régime anglais et l'arrivée de la presse écrite, les esclaves ont vendu à travers les journaux. Et donc, si on va voir la Gazette de Québec ou la Gazette de Montréal dans les années 1770, 80, 90, on va retrouver des annonces d'esclaves à l'encre et d'esclaves en fuite aussi. L'esclave ne s'appartient pas. L'esclave est un objet qu'on vend, qu'on achète, qu'on échange, qu'on donne, qu'on lègue. Les femmes esclaves ne sont pas juste des esclaves domestiques. Ce sont des esclaves sexuels aussi. Ils sont très souvent violés. La présence noire a été effacée de notre histoire. Et c'est pour ça que, encore une fois, on a à l'esprit l'afro-canadianisme récent seulement, c'est-à-dire l'immigration de nos parents ou des parents, mettons, Max. Mais on ne remonte pas jusqu'au 19e siècle, on ne remonte pas jusqu'au 18e, jusqu'au 17e siècle. Pour moi, ce n'est pas normal que quelqu'un connaisse l'esclavage aux États-Unis ou seulement dire « Ah oui, il y a des esclaves aux États-Unis », mais qu'on ne connaisse pas notre propre histoire. Parce que l'esclavage a disparu plus tôt ici qu'aux États-Unis, une soixantaine d'années avant. Et donc, ce dont on veut se rappeler, c'est quand les esclaves venaient se réfugier ici, qui est en fait une histoire qui fait paraître bien, si on veut, dans notre identité. Donc on a vraiment oublié cet aspect de servitude, de ségrégation, aussi de racisme, parce que ça fait partie de notre histoire aussi. Je pense grandement qu'il faut qu'on puisse parler de cette histoire dans les cours, au secondaire, sur. À chaque fois que je suis dans une école, je regarde le manuel, puis je vois dans la section qui parle de la Nouvelle-France du régime britannique, quelle est la place réservée à la présence noire, réservée à l'esclavage. Et quand on est chanceux, il y a un paragraphe. De connaître que cette histoire est plurielle permet de solidifier cette identité québécoise-là, de démontrer la pluralité de notre passé et de notre présent. Le passé du Québec n'est pas seulement un passé homogène, blanc, francophone, catholique. Et pour moi, c'est une manière de démontrer, tu sais, au-delà de l'esclavage, parce que oui, l'esclavage, mais pour moi, ce n'est pas une identité. La servitude n'est pas une identité. C'est une chose qui s'est passée dans le passé, c'est une chose dont il faut se rappeler, mais pour moi, on doit aller au-delà de ça.
Devoir de mémoire. Décoloniser la mémoire. Le 23 août, souvenir de la traite négrière et de son abolition. Nous avons le plaisir de recevoir un nouveau partenaire, Image Création Interprétation, un centre culturel de Montréal regroupant des artistes passionnés qui ont à cœur de mettre en avant les arts de la scène. Et il nous invite à la 5e édition du Festival du Souvenir, qui se déroulera du 14 au 23 août au quartier Halmsick à Montréal. Le festival fut institué à Montréal en 2020 pour souligner la date de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, commémorée chaque année le 23 août par l'UNESCO. Le Festival du Souvenir offre au public une semaine de réflexion et d'activités culturelles sur la mémoire de l'esclavage et la culture des peuples racisés. Du 23 au 30 août, rejoignez-nous pour célébrer la mémoire à travers des expositions, projections de films, des conférences inspirantes, des rencontres interculturelles et des émissions spéciales sur CUT 89,5 FM.
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Comment raconter notre histoire ?
Telle est la question que nous nous posons aujourd'hui dans Histoire 2. Et dans la deuxième partie de notre émission, toujours en compagnie du chercheur et romancier David Diop, j'ai le plaisir d'être rejoint par deux de nos vaillants sociétaires. Ils piaffaient d'impatience derrière la vitre tout à l'heure. J'ai nommé Adila Benedjaizou, historienne, scénariste, documentariste, qui, dans ses films et ses créations sonores, aime mêler la grande histoire au destin individuel. Et Paulin Ismar, bonjour, historien de la Grèce antique et des étranges liens qui s'y nouent justement entre démocratie et esclavage, qui lui aussi vient d'ouvrir la porte de l'histoire en grand, puisqu'il vient de diriger avec Benedetta Rossi et Cécile Vidal un grand livre, Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée, avec une postface de Leonora Miano. Oui, Adila, je vous voyais piaffer parce que j'ai l'impression que vous n'y croyez pas à cette histoire. Vous vous posez la question, est-ce qu'on peut vraiment revenir de cette terre de la mort, comme le dit David Diop.
Effectivement, c'est vraiment la question que je me suis posée en lisant ce livre. L'histoire était belle, est-ce qu'elle était possible? Je me le suis demandé. Eh bien oui, la réponse est oui. Il existe des esclaves qui ont franchi le passage du milieu et qui sont revenus en Afrique. En 1623, Pedro II, roi du Congo, écrit à Philippe II d'Espagne parce que plusieurs nobles Congo ont été capturés et envoyé en Amérique, alors qu'il est interdit de mettre en esclavage les sujets libres du royaume du Congo. Et bien que ces personnes aient déjà été envoyées dans des plantations, certaines d'entre elles sont retrouvées, mises sur des bateaux et ramenées au Congo. Alors, raconter un crime contre l'humanité du point de vue de ceux qui ont échappé dans les questions « comment peut-on raconter l'esclavage ?» Je pense qu'on ne va pas suivre cette piste-là, mais cette anecdote, elle me paraît très intéressante parce qu'elle raconte le rôle très ambivalent que les rois du Congo et d'autres souverains de la côte ouest de l'Afrique d'ailleurs ont joué dans le commerce triangulaire, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois fourni des esclaves et protégé leurs propres sujets de l'esclavage. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans votre roman, David Diop, c'est que Maram, elle n'est pas seulement un objet dans les mains des Français, elle est vendue par son propre oncle, qui est lui-même un notable. Et je voulais savoir si ça, parce que c'est souvent difficile d'aborder cet aspect-là du rôle de certains Africains dans la traite négrière. Est-ce que pour vous, ça a été difficile de raconter cet aspect-là de l'histoire ?
Non, ça n'a pas été difficile, parce que j'y trouve comme garant des historiens sénégalais qui ont vraiment fait des travaux à l'université Cheikh Diop de Dakar et qui disent très clairement que, eh bien, pendant 4 siècles, l'esclavage n'aurait pas été possible si les élites n'avaient pas soutenu d'une certaine manière l'esclavage. Alors, évidemment, il y a un discours aussi qui est associé à celui que je viens d'énoncer. C'est l'idée que l'esclavage aussi est favorisé par les acheteurs, les Européens, qui, comme on peut le supposer, entretiennent des guerres entre les royaumes pour vendre des fusils et d'autres denrées et, en échange, recevoir des esclaves. Donc, pour moi, ça n'a pas été compliqué de dire cela parce que je ne m'inscris pas dans une polémique. J'écris simplement un roman et j'ai l'impression que grâce à la fiction romanesque, je peux rentrer dans des nuances que si j'avais été polémiste ou que si j'avais été engagé dans un débat à trancher, je n'aurais pas pu avancer.
Ce roman, Paulin Ismar, c'est là sa force, il est vraiment contemporain, David Diop le dit, de l'historiographie, de celle que vous avez rassemblée dans ce grand livre, Les mondes de l'esclavage, et qui tente effectivement de manière comparée, de manière globale, de saisir ce que fut la traite.
Oui, de ce point de vue, ce roman, il est précieux aussi pour les historiens, parce qu'il essaie de rendre sensible cette expérience de la traite, mais aussi du point de vue des sociétés africaines du XVIIIe siècle. Et il rencontre, hein, de ce point de vue, le travail des historiens, puisqu'aujourd'hui, les historiens qui travaillent sur la traite transatlantique travaillent évidemment étroitement avec les historiens des sociétés africaines. Non seulement pour étudier les ravages qu'a causé la traite atlantique au sein de sociétés africaines. On peut y prendre, enfin, d'abord et avant tout sur le plan démographique.
Parce on que peut rappeler le grand masse de chiffres. Oui.
C'est 12,5 millions d'hommes et de femmes déportés sur une période de 4 siècles, mais durant la période qui est celle du roman de David Diop, c'est-à-dire la deuxième moitié du 18e siècle, c'est la période dans laquelle l'attrait transatlantique atteint son pic, hein. Donc c'est des déportations absolument massives et qui ont eu un impact considérable sur la démographie du continent africain en général jusqu'au 20e siècle. Un historien américain, Patrick Manning, avait fait une évaluation qui est assez spéculative, mais dans laquelle il avançait que la population du continent africain au milieu du 19e siècle aurait été de 100 millions, c'est-à-dire le double de ce qu'elle a été, sans l'expérience de la traite.
Et vous dites que pour les historiennes et les historiens de profession, il y a un gain à fictionnaliser, à fabuler cette histoire. On pense évidemment au travail de Saïda Hartmann qui allie justement le voyage, un récit de voyage avec une sorte de voyage intérieur. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot, Paulin Ismar.
Oui, Saïda Hartmann, c'est à la fois une historienne et une théoricienne de la littérature qui a réfléchi à la façon dont on pouvait, par le recours à la fiction, rendre sensible et donner une voix à des personnages et des esclaves qui sont privés d'histoire et privés de voix en raison même de leur statut d'esclave. Et son idée, c'est ce qu'elle appelle la fabulation critique, c'est à la fois de pouvoir construire de la fiction pour leur rendre leur être et pouvoir de toute façon les faire exister à nos côtés, mais cette fabulation est toujours critique au sens où elle ne perd jamais de vue la difficulté pour celui qui écrit de précisément leur restituer cette voix. Donc elle rend aussi visible cette difficulté pour atteindre ces personnages.
Et ce voyage d'exploration vers la partie obscure d'elle-même qu'elle produit en même temps que le récit d'un voyage au Ghana sur les lieux de l'esclavage dans l'Osler Moser qui va être bientôt traduit aux presses du réel, l'a fait dire ceci, David Diop, je voudrais savoir si vous vous reconnaissez dans cette profession. Je faisais moi aussi partie des témoins qui manquaient à l'appel. La prise en compte de ce dont j'avais hérité m'avait mené à ce cachot, mais à présent tout cela me paraissait hors de portée. On y est tous dans cette histoire.
Oui, moi j'ai visité la maison des esclaves à Gorée et j'ai tiré le titre de mon roman de ce que racontait un conservateur qui est disparu, qui s'appelle Joseph Ndiaye et qui appelait cette porte qui se découpe sur l'Atlantique et qui était apparemment prolongée par un ponton, la porte du voyage sans retour. Et c'est une expérience qui est assez terrible de s'imaginer le côté irrémédiable de ce passage. Alors c'est vrai qu'il y a eu, comme a dit Adida, des gens qui sont revenus, des esclaves qui sont revenus. Mais ce côté, si vous voulez, saisissant du lieu, peut vous transporter vous-même dans des situations passées par la force de l'imagination et vous toucher profondément.
Et puis Adila Benedjaizou, ça pose la question de savoir au fond, puisque ce monde de l'esclavage, c'est notre monde, c'est celui qui a façonné, celui dans lequel nous vivons, nous nous sommes enrichis, nous sommes aussi formés, y compris d'ailleurs dans par la démocratie des Lumières, de qui descendons-nous ? Des esclaves ? Des esclavagistes ?
Alors ça, c'est une très excellente question, d'autant que si on se plonge un petit peu dans l'ouvrage de Paulin Ismar, Les mondes de l'esclavage, ce que j'ai fait, moi par exemple, j'ai eu le plaisir de découvrir que peut-être dans ma famille, il y avait eu des marchands d'esclaves qui avaient traversé le Sahel pour vendre des êtres humains. Et en fait, on sort de ce livre en se disant, mais nous sommes tous des descendants d'esclavagistes, d'une manière ou d'une autre. On peut tous avoir eu dans notre famille quelqu'un qui aurait vendu l'ancêtre de quelqu'un d'autre, qui l'aurait vendu ou acheté. D'ailleurs, je pense qu'on devrait renommer votre livre le livre dont vous êtes l'esclavagiste. À ce détail près que, évidemment, on a beaucoup plus de chances d'être descendant d'esclavagistes quand on est nantais que quand on est dakarois.
Oui.
Et surtout, on n'est pas tous descendants d'esclaves.
Et c'est pour ça qu'il y a cette question, effectivement, aujourd'hui, d'une histoire militante qui reconnaît, qui nomme, qui date, qui localise. Et c'est important de dire ça parce que souvent on dit, ah ben oui, mais on n'en parle jamais, c'est pas connu, alors que en réalité, eh ben, on a des bases de données énormes. Vous êtes venu avec, dans votre besace, avec un site internet dont vous voulez nous parler, Adila Benedjaizou.
Tout à fait. Parce que, évidemment, c'est qui raconte l'esclavage et comment on peut le raconter, mais surtout pourquoi on le raconte. Et c'est là que un site comme slavevoyage.org nous apporte quelque chose d'énorme. C'est un site qui est accessible à tous, qui est en anglais malheureusement, qui est l'aboutissement d'une collaboration de plusieurs dizaines d'années entre différents chercheurs, des web designers, des cartographes de 3 continents. Il recense les données de bateaux négriers qui ont traversé l'Atlantique, plus de 36 000 navires qui ont fait du commerce triangulaire pendant 3 siècles. Le site recense les bateaux, leur nationalité, le nombre d'esclaves transportés, le nom des capitaines et le nom des propriétaires des bateaux. Pour le nom des esclaves, malheureusement, c'est évidemment beaucoup plus difficile, mais il y a quand même quelques données. On estime à 12,5 millions les personnes déportées, femmes et hommes, dans le commerce triangulaire. L'équipe de slavevoyage.org affirme qu'il documente 80% de ce trafic. C'est considérable. Il y a également des Français qui travaillent sur ce sujet. Il y a le site Indemnité et Esclavage qui recense les esclavagistes qui ont été indemnisés au moment de la deuxième abolition de l'esclavage, justement parce que on avait libéré leurs esclaves. Ce qui est intéressant, si on parle de réparation, c'est que au moment de cette abolition, on se pose la question, doit-on indemniser les anciens esclaves ou les esclavagistes? Le choix qui est fait, c'est d'indemniser ces esclavagistes. On trouve le nom de ces familles, les sommes qu'ils ont touchées, le nombre d'esclaves estimés qu'ils avaient sur ces sites indemnité et esclavage.
Donc c'est une histoire qui est beaucoup plus documentée qu'on le pense et qui est aussi documentée par un travail militant, ce qui est une manière aussi de rappeler qu'au fond l'histoire savante, elle est parfois impulsée par les luttes de reconnaissance de la mémoire.
Il s'est passé quelque chose en France depuis 25 ans.
Depuis le 23 mai 1998 en particulier.
Voilà cette marche au cours de laquelle 40 000 Français, en grande partie originaires d'outre-mer, ont marché de la République à la nation pour faire entendre en métropole, à Paris, dans des lieux hautement symboliques, ce qu'avait été la mémoire de l'esclavage pour une partie des citoyens français. L'année après cette marche, s'est constituée une association assez exceptionnelle, le CM98, qui a monté un projet assez extraordinaire, hein, qui me fait penser à ce qu'évoquait à l'instant Adila. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, un groupe environ d'une cinquantaine de personnes, originaires de la Guadeloupe et de la Martinique, ont travaillé dans les archives, à la fois dans les archives nationales, les archives départementales de la Guadeloupe et de la Martinique, dans les archives nationales d'outre-mer, à Aix-en-Provence, pour reconstituer le nom de tous les anciens esclaves qui avaient été libérés après 1848, donc dans cette phase de 1848 aux années fin des années 1850, début des années 1860, en Guadeloupe et en Martinique. C'est-à-dire qu'ils ont dépouillé tous les registres de nouveaux libres de Guadeloupe ou les registres d'individualité en Martinique pour tout simplement donner le nom, retrouver un nom à nos parents, hein, ou nos aïeux esclaves, disait-il, qui retrouvaient leur patronyme au moment où ils quittaient leur statut d'esclave et devenaient véritablement libres. Et ils ont reconstitué comme ça une base de données de 150 000 noms qu'on peut consulter aujourd'hui sur le site qui s'appelle Enchoucage. Et ça a été un moment très très important pour la communauté antillaise, à la fois en métropole et puis aux Antilles elles-mêmes.
En vous écoutant, je comprends, et en vous lisant aussi, David Diop, que au fond, cette histoire de transmission, qui finalement nous amène une histoire beaucoup mieux connue, beaucoup mieux documentée qu'on le pense, et qui est, au fond, comme le disait dans son vers célèbre René Char, notre héritage qui n'est précédé d'aucun testament, eh bien, c'est comme dans votre roman, David Diop, parce que ça commence comme ça, ça commence par des carnets de Michel Audenson, qui sont bien serrés dans un maroquin rouge, qui sont cachés
à la vue de sa fille, Aglaé, mais cachée pour qu'elle les découvre. Et c'est une très belle scène que vous décrivez, la manière dont finalement on est dans une serre, et puis je vous cite, un petit déclic, comme si par un jeu subtil de menu ressort, un mécanisme secret s'était enclenché. Est-ce que vous sentez que ce mécanisme secret, il est en train de s'enclencher dans la société française, David Diop? C'est-à-dire cette histoire, elle devient enfin disponible pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour toute notre histoire.
Alors, je ne saurais pas, comment dire, assez autorisé pour dire une chose pareille. Ce que je peux dire simplement, c'est que dans le passage auquel vous vous référez, il y a comme une métaphore l'idée que, eh bien, pour aller chercher cette histoire cachée, il faut faire un effort. Pourquoi ? Parce qu'elle risque de s'empoussiérer ou de se couvrir de poussière dans des tiroirs de l'histoire que personne n'ouvre. Alors j'ai l'impression, en effet, et le livre de Paulin semble l'indiquer, que des tiroirs sont ouverts. La question maintenant est de savoir qui va lire cette histoire, comment la faire lire, comment l'enseigner, et ça c'est une grande question.
Dans votre roman, David Diop, le tiroir dans lequel est préservé ce carnet, c'est celui de l'hibiscus, et c'est un signe secret pour sa fille. Pourquoi ?
Alors, parce que Michel Adanson est un botaniste. J'ai voulu que ce manuscrit secret qui raconte son voyage secret au Sénégal, eh bien, soit transmis à sa fille en vertu d'un lien qu'ils avaient, un lien mémoriel, c'est-à-dire leur visite au jardin du roi, où Michel Adanson avait ses entrées, hein, en réalité. Et la fleur de l'hibiscus est une fleur indécise, c'est-à-dire qu'à la tombée de la nuit, quand on la représente, évidemment, sur un meuble, comme c'est le cas dans mon roman, on peut se demander si elle s'ouvre ou si elle se ferme. Et il y a une indécision qui me plaît dans cette fleur quand on la représente sur des planches de botanique.
Adila Benedjaizou.
Pour reprendre la métaphore de l'hibiscus, il me semble que vous écrivez que c'est une fleur sans paupières.
Oui.
Donc une fleur qui ne peut pas fermer les yeux ou qui ne peut plus fermer les yeux. C'est intéressant aussi du point de vue de l'usage qu'on peut faire de cette histoire.
C'est une image que j'ai... C'est un mot d'enfant, en fait. Michel Adanson se souvient que sa fille l'appelait la fleur sans paupières. Bon, voilà. Mais en effet, le texte me dépasse. Adila, je n'avais pas pensé à cette idée et je la trouve vraiment très intéressante, l'idée qu'on ne peut plus fermer les yeux. Ou en tout cas, sa fille ne doit pas fermer les yeux sur cette histoire que lui raconte son père. Une histoire douloureuse, une histoire secrète, mais une histoire qui va l'aider elle-même à grandir.
Indécise est la fleur de l'hibiscus. Indécise également est d'une certaine manière notre relation à cette histoire, Paulin Ismar, et en particulier au rapport entre lumière et esclavagisme. On est parti de là, on peut y revenir. Vous avez amené, pour éclairer notre débat, non pas un site internet, mais un roman, et le roman le plus scolaire qui soit, c'est Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Pourquoi ?
Parce que Bernardin de Saint-Pierre, on y pense beaucoup en lisant votre roman sur Michel Adanson. Et vous connaissez très bien, évidemment, David Diop, vous avez écrit sur Bernardin de Saint-Pierre. Et c'est un personnage qui concentre une grande partie de l'ambiguïté du discours des Lumières sur l'esclavage. Et Bernardin de Saint-Pierre, comme Adanson, était un botaniste. On a redécouvert récemment ses études de la nature. Et c'est un personnage quand même assez fascinant parce que c'est un des rares hommes des Lumières qui connaît vraiment très bien le monde colonial, qui a voyagé en Martinique et puis surtout qui a écrit son voyage à l'île de France, donc aujourd'hui l'île Maurice, qui est un document ethnographique exceptionnel dans lequel il y a une condamnation très violente de l'esclavage. Bernardin de Saint-Pierre est un vrai anti-esclavagiste. Alors c'est pas tout à fait un abolitionniste, c'est un peu différent. Et là, il y a une ambiguïté. Et puis il défend aussi le principe de la colonisation. Mais son voyage à l'Île-de-France vraiment propose une critique
qui date de 1773.
De 1773, une critique de ce qu'est l'esclavage, assez extraordinaire et vibrante. Et ce qui est étonnant, en fait, d'une certaine façon, ce serait de relire Paul et Virginie.
1788.
Voilà, 15 ans plus tard, qui n'est pas seulement une bluette exotique et tropicale, un peu mièvre, et qu'on lit quand même de moins en moins, aussi parce qu'on ne sait pas très bien quoi faire de ce roman pastoral.
C'est un roman qui a fait pleurer l'Europe sur le sort des Noirs.
Bien sûr, mais en même temps, la description de l'esclavage dans Paul et Virginie, avec ces deux figures d'esclaves, hein, Domingue et, qui est Wolof, et Marie, qui est une esclave créole, c'est une représentation en même temps assez paternaliste de l'esclavage, et qui contraste un peu avec le point de vue de Bernardin de Saint-Pierre dans Le Voyage et l'Île de France. On aurait envie, en fait, on suggérerait aux auditeurs, de toute façon, de lire les deux en même temps.
Et d'ailleurs, David Diop, j'ai plaisir, pour terminer, à citer un de vos travaux académiques, rhétorique nègre au XVIIIe siècle, des récits de voyage à la littérature abolitionniste, paru chez Classique Garnier en 2018, en même temps que Frères d'armes, où vous abordez toutes ces questions, où vous écrivez, je cite, que justement Bernardin de Saint-Pierre, malgré toutes ses bonnes intentions pour prévenir les préjugés à l'encontre des nègres, eh bien finit par les reconduire, voire, je vous cite, les valider indirectement, parce qu'il ventriloque au fond ce qu'il prétend défendre, et il ne donne pas vraiment voix, et c'est peut-être ça que doit faire la littérature et l'histoire avec elle, voix à aux esclaves eux-mêmes.
Oui, alors il n'avait pas la possibilité de prendre la parole. Donc cette parole de Bernardin de Saint-Pierre, elle est tout à fait généreuse et pleine de bonnes intentions. Il y a aussi un homme des Lumières que j'admire beaucoup, c'est Diderot, qui est l'inspirateur des belles pages de la Bérénale contre l'esclavage, et qui même sont le rédacteur de ces pages. Et on parlait tout à l'heure du siècle des Lumières. Il y avait en effet des philosophes qui avaient parfaitement conscience qu'il y avait un décalage très grand entre les idéaux des Lumières et l'esclavage de masse. Hein, c'est un pic à rappeler Paulin dans cette partie-là du XVIIIe siècle, de la traite de l'esclavage, qui avait donc parfaitement conscience du caractère horrible de la traite. Donc, Paul et Virginie, c'est un livre aussi qui a fait pleurer toute l'Europe sur le sort des esclaves, mais qui aussi s'adapte au public qu'il vise. Hein. C'est un public des salons. Il faut savoir aussi que les textes du XVIIIe siècle s'adressaient à des coteries et que finalement, ils énervaient le public une fois qu'une caution avait été donnée par des publics aristocratiques. Donc, peut-être que ce qui nous paraît absolument mièvre était considéré comme une attaque assez dure contre les planteurs. Bon, il y a cette référence au nègre Domingue et surtout à cette marronne, cette jeune fille qui va être amenée par Virginie à son maître, et elle va dire à son maître de plus comporter aussi mal. Ça nous paraît absolument étrange, mais c'est peut-être à l'époque où ça a été écrit, un message qui a été entendu et qui a été considéré comme non pas radical, mais assez fort.
Allez, on va faire comme vous dites, on va relire Paul et Virginie à la lumière de votre livre, David Diop, La porte du voyage sans retour, qui paraît au seuil. Merci, vous étiez en duplex avec nous depuis Pau. Merci David Diop.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Merci Adila, merci Paulin. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestudia. Il y avait aujourd'hui à la technique Fabrice Desmas. La semaine prochaine, nous parlerons de l'histoire des vaccins et de la vaccination avec l'historien Guillaume Lachenal. Bon dimanche sur France Inter.
Devoir de mémoire, décoloniser la mémoire. Le 23 août, souvenir de la traite négrière et de son abolition.
Freedom, oh freedom, oh freedom over me and before I'll be a slave, I'll be buried in my grave. And go home to my Lord and be free. Oh, freedom.
Oh, freedom.
Freedom.
Oh, freedom.
Freedom.
Oh, freedom over me.
KYUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence. Gagnez vos places au TIFF, le premier long métrage de la réalisatrice belge Cato Kosters, baptisé Julian, bénéficiera d'une première projection mondiale en septembre prochain au Festival du film de Toronto. Le film Julian est basé sur le livre éponyme de l'écrivaine belge Fleur Pierret et raconte l'histoire de deux femmes follement amoureuses qui décident de se marier dans chaque pays qui l'autorise. Cato Kosters, âgée de 26 ans, devient ainsi la plus jeune Belge à présenter un film lors du célèbre Festival canadien. Le Festival de films de Toronto se déroulera du 4 au 14 septembre et Julian sortira dans les salles belges, si vous êtes en Belgique, le 29 octobre prochain.
Première mondiale à Toronto pour Julian, premier long métrage de la Belge Cato Kosters, coproduit par la RTBF et les Frères Dardenne. Publié le 24 juillet 2025 à 10h42. Le premier long métrage de la réalisatrice belge Cato Kosters, baptisé Julian, bénéficiera d'une première projection mondiale en septembre prochain au Festival du film de Toronto, TIFF. La sélection officielle a été présentée mercredi par l'organisation canadienne, par Belge. Cato Kosters, âgée de 26 ans, devient ainsi la plus jeune Belge à présenter un film lors du célèbre Festival canadien. Le film Julian est basé sur le livre éponyme de l'écrivaine belge Fleur Pierret et raconte l'histoire de deux femmes follement amoureuses qui décident de se marier dans chaque pays qui l'autorise. Le scénario a été écrit par Cato Kosters en collaboration avec Angelo Tissant, qui avait notamment travaillé au script de Girl et Close de Lucas Do. La réalisatrice a également travaillé à la bande-son, en compagnie du duo de compositeurs Evgeny et Sacha Galperine. Le film est notamment produit par la société des frères Lucas et Michel Don, de Réunion, et coproduit par les frères Dardenne, la RTBF, VTM, Proximu, et BTV. L'histoire de Julian m'a tellement touchée que j'ai ressenti une énorme responsabilité de la raconter de la manière la plus juste, a expliqué Cato Kosters. Cette responsabilité, je la ressens toujours. C'est une histoire forte qui reste d'actualité, surtout à une époque au cours de laquelle les droits de tant de personnes sont menacés. La jeune réalisatrice avait jusqu'ici mis en image des courts-métrages et des clips musicaux. Son projet de fin d'études financières lui avait valu le prix du jury lors du Festival du film de Gand en 2022. Le Festival du film de Toronto se déroulera du 4 au 14 septembre 2025. Julian sortira sur dans les salles belges le 29 octobre prochain. À lire aussi, deux coproductions RTBF sélectionnées à la 82e édition de la Mostra de Venise. Cinéma, publié le 29 juillet 2025 à 4h58. Temps de lecture, 2 minutes. Le film Super Happy Forever remporte le grand prix du meilleur film au Festival du film de Gand. Cinéma, publié le 21 octobre 2024 à 5h10. Temps de lecture, 1 minute. Julie s'était présentée en première belge au Festival du film de Gand. Cinéma belge, publié le 11 octobre 2024 à 8h46. Temps de lecture, 1 minute. La série belge 1985 présentée en avant-première au Festival du film de Gand. série belge, publié le 14 octobre 2022 à 9h32. Temps de lecture, 1 minute.
Nos amis d'Apéro Chic vous invitent chaleureusement à Saint-Tropez le mercredi 20 août de 18h30 à 23h. Ça promet. Soirée glamour en blanc sous les étoiles de Cabana Pool Bar qui vient d'être rénovée. Une paire de billets à la première personne qui m'écrit à popourri@cut.fm. Tous les détails sur popourrishow.com. Rendez-vous à Saint-Tropez le 20 août. Soyez-y. Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourrishow.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Popourri Show, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc. Quoi de neuf ? Les cafés du Créfaux. Eh oui, nos amis du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le Créfaux, ont le plaisir de vous présenter la 5e saison. Quoi de neuf, les cafés du Créfaux. Avec la soif d'apprendre, un membre du Créfaux s'assied avec universitaires, artistes ou étudiants pour aborder des enjeux de société de petite ou de grande taille. Cette 5e saison est animée par Amal Madibo, professeure agrégée et directrice adjointe du département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race et l'antiracisme en Afrique. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf, les cafés du Créfaux. Et c'est gratuit. Plus d'infos sur oisi.utoronto.ca/fr/Créfaux ou tout simplement popourrishow.com. Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et Prise de Parole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. Pour la rentrée 2025-2026, Popourri Show confirme son ambition de rester une référence incontournable de la francophonie d'ici et d'ailleurs. 2025-2026, des nouveautés, des débats, des coups de cœur, des coups de gueule, de nouvelles voix et du renfort avec les podcasts du Créfaux, les rendez-vous de Ciné Franco, les projets et initiatives visant les communautés immigrantes francophones de la région de Welland et du Niagara, avec nul autre que Sophie Franc, les projets de Français du Monde Toronto, les rendez-vous et nouveautés littéraires de la communication et les éditions Prise de Parole, le journal d'Haïti et des Amériques avec RFI et France 24, les visites guidées du Musée Royal de l'Ontario, la playlist de nos DJ et de Tolalito Music, et les enjeux et défis de la francophonie et de l'intelligence artificielle. Singulière et plurielle, Popourri Show assume son rôle de repère dans un contexte d'incertitude démocratique. Plus de détails sur popourrishow.com. Et si vous souhaitez être parmi nos partenaires, une seule adresse, potpourri@cut.fm. Et pour vous donner une idée de ce que vous attend 2025-2026 sur notre antenne, en voici un extrait.
On ouvre ce journal par ce focus sur les enjeux de la présidentielle camerounaise du 12 octobre prochain. À 92 ans, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, se représente pour un huitième mandat dans un contexte de crise économique, de violence dans les régions anglophones, de fatigue démocratique et de mobilisation d'une jeunesse en quête d'alternance. Cette élection pourrait bien cristalliser toutes ces frustrations d'un peuple divisé. L'opposition est fragmentée, tente de s'unir face au pouvoir qui cherche à se pérenniser. On en parle avec aujourd'hui Roger Nicolas Oyono-Mengue, attaché de recherche et d'enseignement, doctorant au laboratoire des Afriques dans le monde de Sciences Po à Bordeaux. Merci beaucoup d'être là avec nous.
Merci beaucoup, Fadimata.
Alors, Paul Biya a annoncé se présenter à un huitième mandat. En préparant cette émission, vous nous avez dit que c'est une surprise uniquement pour ceux qui connaissent pas la politique camerounaise. Expliquez-nous.
Oui, merci de m'avoir invité et merci à tous les téléspectateurs qui nous écoutent ce soir. C'est vraiment pas une surprise pour quiconque en fait connaît le Cameroun de voir le président de la République Paul Biya en fait décider de se représenter à cette élection parce qu'il y avait déjà eu des prémices en fait. En ce qui concerne des prémices, il faut voir que au lendemain de l'élection présidentielle de 2018, il y avait déjà en fait un ensemble d'appels à la candidature depuis 2020, ce qu'on appelle les motions de soutien. En fait, c'est des sortes de lettres en fait qui viennent en fait de tous les bords et qui appellent le président, par exemple, à rebriguer un certain mandat. Et depuis 2021, il y a eu un appel à la Lékié. En fait, c'est un département du centre Cameroun qui appelait déjà Paul Biya à être candidat. Et au-delà de ça, il y a eu d'autres appels qui ont suivi. Et au-delà de ces appels, il faut également regarder les différents discours du président de la République. Le 31 décembre, par exemple, 2024, il avait presque dit littéralement « ma détermination à vous servir restait intacte ». Et du coup, donc, malgré en fait les hésitations qui aujourd'hui ne devraient pas surprendre, parce que le président Biya, quand on regarde dans sa manière de gouverner, il y a toujours eu en fait cette manière de créer de la rumeur, de créer le suspense en fait, pour à la fin en fait se relégitimer en sortant comme étant l'unique puzzle ou la pièce maîtresse de ce puzzle en fait.
Alors, on reviendra sur le système Biya, mais juste une question. Comment cette annonce est perçue par la population camerounaise et en particulier par la jeunesse camerounaise?
Ouais, il faut dire que sensiblement 60 à 62 personnes % de la population camerounaise ont moins de 25 ans. Donc, et quand on regarde cette jeunesse, c'est quand même une jeunesse en fait au quotidien qui souffre en fait de beaucoup de maux qu'on peut retrouver dans d'autres pays, mais particulièrement dans le contexte camerounais, ça fait quand même un peu un taux de chômage élevé. Ça fait en fait les débats d'aller parfois chercher vers les voies les plus prospères, à savoir des pays européens. On a regardé par exemple sur la guerre en Ukraine, certains jeunes camerounais qui sont pris comme des soldats en Russie. Cela montre en fait l'état en fait de cette jeunesse, en fait, aussi, qui ne sait à quel sens se vouer. Or, il y a également, d'un autre côté, une minorité d'une autre jeunesse, par contre, qui est dans des grands... qui bénéficie, en fait, de certains avantages. Ça peut être, en fait, les fils des grands barons du régime, qui réussissent facilement à certains concours par des méthodes, parfois, pas toujours des critères d'excellence qu'on reconnaît, en fait. Ce qui fait que il y a, en fait, une perception clivante. Il y en a certains qui vont soutenir cette candidature. Il y en a d'autres également qui ne vont pas soutenir cette candidature.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les modus et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeur et locuteur, parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti, j'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite, libre, évolutive, la langue vit, révolte, danse, et le livre des livres, et livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues, ma structure grammaticale est à rempart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie, je suis la langue française, je suis la francophonie.
Et même si plus l'été sera
chaud, dans les t-shirts, dans les maillots, la Côte d'Azur à Saint-Malo.
L'été sera chaud sur CUT 89,5 FM Toronto. Emmenez Popourri Chaud et CUT FM dans vos valises en faisant le plein de podcasts inédits de nos partenaires au CREFO, Université de Toronto. Et les incontournables à festivals et suggestions de voyages dans un des pays membres de la francophonie. Tout l'été, la musique résonne au rythme de la playlist de RFI et de la Little Music. Découvrez tous nos jeux concours et les rendez-vous de l'été de nos partenaires sur popourrichaud.com. Nos sincères remerciements au Musée Royal de l'Ontario, le Festival Compass de l'Ontario, le CREFO, Ciné Franco, Afrofest 2025, Apéro Chic.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33. Sur RFI.
Il est 13h en temps universel, 9h à Port-au-Prince et à Washington.
RFI Midi, Clotilde Dumais.
À Washington, capitale du crime aux yeux de Donald Trump, le président américain déploie les militaires de la garde nationale dans cette ville qu'il dit envahie par des gangs violents. Et c'est évidemment à la une de la presse américaine qu'on va vous lire dans un instant. Le cri de détresse des jeunes haïtiens entre le manque d'emploi, la précarité, l'insécurité. Ils témoignent au micro du correspondant de RFI à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse.
La plupart des jeunes haïtiens sont désespérés et ils ne voient pas de porte de sortie, ils ne voient pas leur avenir. Parce que d'année en année, la situation du pays s'aggrave.
Reportage à écouter dans une dizaine de minutes. La suite de notre série sur les événements culturels qui ont marqué le continent depuis le début de l'année. On va parler de la série argentine L'Éternaute. Et puis l'actualité des Outre-mer avec vous, Benoît Ferrand, et à la une aujourd'hui.
Eh bien, nous parlerons météo avec une tempête tropicale actuellement située au large du Cap-Vert. Elle devrait s'approcher des petites Antilles d'ici la fin de la semaine. Prévision à suivre.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et puis la presse en Haïti, Nemo, avec ce reportage dans un marché touristique désert.
Oui, la journaliste Widiane Prophète du média haïtien Aïbo Post nous emmène entre les étalages du marché du Cap haïtien au nord de l'île. Elle y décrit des stands colorés et bien garnis, mais aussi un silence pesant. Devant les artisans, vendeurs de bijoux et de tissus, aucun touriste ne déambule. Pourtant, paradoxalement, les vendeurs sont de plus en plus nombreux. Elle rencontre Barnes, un artiste peintre qui fait le marché depuis plus de 20 ans. On ne vend presque plus rien, lui confie-t-il. Dans cette ville au nord d'Haïti, les seuls nouveaux venus ne sont pas des visiteurs mais des rescapés de la violence venant du centre de l'île ou bien des travailleurs humanitaires. Il est loin le temps où les touristes américains accostés par milliers au nord de l'île et traversaient le marché, regrette Widiane Prophète.
Et toujours en Haïti, il représente plus de la moitié de la population et pourtant les jeunes font face à d'énormes difficultés, absence de politique ciblée pour leur intégration, manque d'emploi, insécurité, précarité. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse ce mardi 12 août, beaucoup d'entre eux expriment leur désespoir. Certains ne croient plus du tout en un avenir meilleur, tandis que d'autres, malgré tout, gardent l'espoir d'un possible changement. Peterson Luxama est allé à leur rencontre à Port-au-Prince.
C'est clair en Haïti que l'avenir pour les jeunes s'écrit en outils.
L'avenir du jeune haïtien est très incertain.
Étudiants, professionnels, chômeurs, pour ces jeunes, vivre en Haïti est un véritable parcours de combattant. Horace, 27 ans, est étudiant en communication et en prêtrise. Pour lui, l'horizon est bouché. il dit ne plus croire en des jours meilleurs dans son pays où la situation des jeunes devient de plus en plus difficile.
La plupart des jeunes haïtiens sont désespérés et ils ne voient pas de porte de sortie, ils ne voient pas leur avenir parce que d'année en année, la situation du pays s'aggrave, d'année en année, le pays s'effondre de plus en plus. C'est comme un décrescendo. Nous avons l'engouement, nous avons l'envie, mais malheureusement, il n'y a pas d'infrastructure. Pour aller à l'école, c'est difficile. Pour aller entrer dans une université, c'est difficile. Je peux dire que moi-même, je ne vois pas vraiment mon avenir dans ce pays. C'est dommage de le dire.
Désespoir et incertitude aussi chez Leïla Joseph, jeune communicatrice. Pour elle, pour beaucoup de jeunes, il est difficile de se projeter et de faire des projets solides, tant la situation du pays complique chaque choix, chaque étape.
Quand je pense à Haïti aujourd'hui, le premier mot qui me vient en tête, c'est incertitude. Parce que il est vraiment difficile pour nous-mêmes, les jeunes, de planifier à long terme, de réfléchir à long terme, de se projeter, de s'investir, d'investir dans quelque chose, dans un projet. Et ceci pour les jeunes à tous les niveaux, que ce soit un jeune bachelier, actuellement qui se demande certainement où il va aller étudier, quelle faculté qu'il pourra fréquenter, quelle université qu'il pourra intégrer, surtout avec la situation actuelle du pays.
Leïla n'est pas seule à douter. Les difficultés économiques, l'insécurité, le manque d'opportunités minent la foi des jeunes dans l'avenir. Kasten, étudiante en gestion des affaires, se dit attristée de voir cette année encore que la Journée mondiale de la jeunesse est commémorée en Haïti dans un climat de désespoir.
Nous sommes dans un pays où les droits des jeunes ne sont pas respectés. Beaucoup de jeunes meurent dans les quartiers populaires. Des jeunes quittent le pays. Nous sommes dans un pays où les jeunes ne sont pas représentés politiquement. Ce sont toujours les anciens qui gouvernent. C'est vraiment triste.
Pourtant, en Haïti, les jeunes représentent plus de la moitié de la population, selon un rapport de la Banque mondiale publié en août 2023. Ce rapport souligne que plus de 50% de la population haïtienne a moins de 25 ans. Cependant, aucune politique ne vise l'intégration des jeunes, ce qui dérange profondément Rouslan Isnardin, juriste de formation. Selon elle, il est anormal que la jeunesse haïtienne soit ainsi marginalisée alors qu'elle constitue la majorité de la population.
Nous avons une politique qui est gangrénée par la corruption, une politique d'individualisme, une politique qui priorise le moi au détriment de la majorité. Vous pouvez constater qu'il n'y a jamais eu de politique publique vraiment pour accompagner la jeunesse haïtienne. Comment un pays peut se développer si 70% de sa population est négligée, si 70% de sa population est mise de côté?
Mais tous les jeunes ne baissent pas pour autant les bras. Malgré les difficultés, certains continuent de croire en un changement possible et refuse de céder au désespoir, à l'image de Rubens Isma, étudiant à l'Université d'État d'Haïti.
Je suis plutôt de ces jeunes qui espèrent, de ces jeunes qui pensent que ce sont à eux de s'engager pour leur pays. Je crois toujours qu'il y a un avenir. Si je ne peux pas faire de plan, au moins je peux être de ces jeunes qui se battent, qui s'engagent à changer la situation et à le rendre au meilleur, à travailler pour avoir le pays que j'aimerais avoir tout simplement.
Un avis partagé par John Marie, jeune activiste politique. Mais il estime que l'engagement des jeunes ne suffit pas. L'État doit également prendre ses responsabilités en mettant en place une véritable politique en faveur de la jeunesse, en offrant par exemple des formations adaptées et en créant des emplois pour accompagner cette génération.
Une véritable politique des jeunesse doit être pensée avec nous et pour nous. Accès à l'éducation de qualité, formation adaptée aux défis du siècle, création d'emplois décents, participation pleine aux décisions publiques. Si réellement, on donne à la jeunesse l'espace et la confiance, elle ne se contentera pas de croire, elle prouvera.
Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
L'actualité des Outre-mer, Benoît Ferrand, avec donc cette tempête tropicale près du Cap-Vert.
Voilà, elle est actuellement située près du Cap-Vert, mais elle va traverser l'Atlantique et se rapprocher des petites Antilles, samedi sans doute, dans quelques jours. Baptisée Erin par les météorologues américains, elle pourrait même se transformer en ouragan de catégorie 3. Écoutez les prévisions de Gaël Racoteau de Météo France Martinique.
Pour l'instant, en fait, on a vraiment la trajectoire, malgré qu'on ait de la certitude, qui passerait vraiment le phénomène cyclonique sur le nord des petites Antilles. Donc, on a une incertitude dessus, donc on a une possibilité qu'il passe proche des îles du Nord et qui ramène là-bas des conditions de temps dégradées. mais aussi une possibilité qui passe assez loin. Donc on a vraiment cette incertitude-là par rapport à la trajectoire. Pour la Martinique, ça va nous concerner avec une possible dégradation du temps, notamment avec une possibilité qu'on ait ce qu'on appelle en fait une panne d'alizés provoquée par ce phénomène qui va aspirer les alizés dans l'océan Atlantique et provoquer chez nous en fait cette chute de vent qu'on aura qui pourrait provoquer de la convection et possiblement des averses fortes sur notre territoire. Mais encore tout cela, c'est encore quelque chose en fait qu'il faut encore qu'on affine là au fil du temps du phénomène, notamment que l'on confirme bien la trajectoire qu'il va avoir et qu'on surveillera dans les prochains jours à venir.
Affaire à suivre, c'est le cas de le dire. On ne quitte pas le domaine de la météo, vous allez comprendre, avec le deuxième lancement d'une Ariane 6. C'est ce soir, depuis le centre spatial guyanais de Kourou, Jean-Gilles Assard.
Moins de 3 mois après avoir réussi sa première mission commerciale, le lanceur européen est de nouveau sur sa zone de lancement. Objectif, mettre sur orbite le gros satellite METOP SGA-1. Visiblement, après 4 ans de retard, les techniciens d'Ariane Group semblent prêts à accélérer le rythme des lancements. Ariane 6 procédera à son second vol commercial. À bord, un satellite de 4 tonnes tiré vers le nord et placé à une orbite de 800 km. Il est destiné à l'observation météorologique et climatique. Il fournira des données en haute résolution sur la température, les précipitations, les nuages, les vents, la glace des mers, les aérosols, la pollution et les cendres volcaniques. Bref, et j'en passe, une véritable bibliothèque au-dessus de nos têtes. Elle doit permettre aux prévisionnistes d'être encore plus performants afin d'anticiper les phénomènes climatiques. Comme de coutume, les vols vers le nord doivent décoller à l'heure, soit 21h37. La séparation est prévue après 1h04 de vol.
21h37 heure de Guyane, autrement dit 2h37 la nuit prochaine en heure de Paris. Bon après-midi Clotilde, à demain.
On suivra ça, merci beaucoup Benoît Ferrand, à demain.
Eh oui, Popori Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, TEPCA, et le Mois du créole à Montréal pour les 2 prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPCA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPCA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Devoir de mémoire, décoloniser la mémoire. Le 23 août, souvenir de la traite négrière et de son abolition. Nous avons le plaisir de recevoir un nouveau partenaire, Image, Création, Interprétation, un centre culturel de Montréal regroupant des artistes passionnés qui ont à cœur de mettre en avant les arts de la scène. Et il nous invite à la 5e édition du Festival du Souvenir, qui se déroulera du 14 au 23 août au quartier Ahuntsic à Montréal. Le festival fut institué à Montréal en 2020 pour souligner la date de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, commémorée chaque année le 23 août par l'UNESCO. Le Festival du Souvenir offre au public une semaine de réflexion et d'activités culturelles sur la mémoire de l'esclavage et la culture des peuples racisés. Du 23 au 30 août, rejoignez-nous
pour célébrer la mémoire à travers des expositions, projections de films, des conférences inspirantes, des rencontres interculturelles et des émissions spéciales sur CUT 89,5 FM. Et cette année, Monsieur François Benjamin, écrivain, poète et homme politique profondément enraciné dans le monde culturel, assumera le rôle de président d'honneur. À ses côtés, Madame Chantal Ismay, féministe, militante politique, sociologue, urbaine et chercheur communautaire, assumera avec conviction le rôle de porte-parole de cette 5e édition résolument tournée vers la justice historique et la revalorisation des mémoires marginalisées. La présence de ces deux personnalités inspirantes promet une programmation vibrante, porteuse de sens et d'engagement. Le Festival du Souvenir, 5e édition, à retrouver sur www.ici-theatre.ca ou popourichaud.com. Et oui, c'était le lancement de la 5e édition du Festival du Souvenir. C'était jeudi 14 août au Café de Da à la bibliothèque Hélène Charbonneau à Montréal. 5e édition du Festival du Souvenir présenté par notre nouveau partenaire Images, Création, Interprétation. Et lors de cette soirée, nous avons pris connaissance de la programmation du festival riche en événements exceptionnels avec plusieurs invités engagés tels que les artistes comme Jean-Jean Roosevelt, comédien, conférencier, ainsi qu'une exposition d'art présentant les œuvres des artistes finalistes du concours de la 2e édition du prix Bookman qui se déroulera jusqu'au 23 août, à ne pas manquer. L'exposition d'art sera prolongée au Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne du 24 août au 30 septembre 2025, 430 rue Sainte-Hélène, Montréal. Plus de détails sur ici-theatre.ca ou popourichaud.com. Le Festival du Souvenir convie le public, les artistes, les penseurs et les militants à se joindre à cette célébration des mémoires vivantes à travers une programmation éclectique. Exposition, art visuel, théâtre, dont le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, conférences, débats et rencontres citoyennes. Pour nous donner un aperçu de la soirée de lancement de la 5e édition du Festival du Souvenir à Montréal, voici Madame Marie Turly-Clerville, coordonnatrice du Centre culturel Images, Création, Interprétation à Montréal. Elle espère vivement pouvoir compter sur votre présence tout au long du Festival du Souvenir.
Bonjour aux auditeurs et amis de Popourichaud et merci pour cette invitation. Je suis vraiment très contente d'être là avec vous ce matin pour vous parler un petit peu du Festival du Souvenir, la 5e édition.
D'économiser la mémoire, c'est plus qu'un concept, c'est un combat. C'est la volonté de sortir des récits officiels, parfois réducteurs, d'entendre les voix marginalisées ou musées, ou parfois muséifiées. C'est refuser l'effacement, redonner sens, corps et voix à ce qui nous constitue. Merci à toutes celles et ceux qui, depuis 5 ans, bâtissent cette mémoire comme en grattant les silences avec des armes poétiques, des épistémologies du bas, des contre-archives. Merci aussi aux artistes, aux penseurs et aux penseuses, aux porteuses et aux porteurs de mémoire, aux bâtisseurs de ponts qui ont permis ce festival de voir le jour et qui vont justement nous faire vivre ce moment. Et merci à vous, public, que j'invite encore.
Donc, c'était ici le lancement du festival. Il y avait aussi Jean-Jean Roosevelt qui avait mis le feu dans la salle. Donc, pour continuer avec la programmation, je vais faire ça vite, hein, parce que vous n'avez pas tout le temps à m'accorder. J'ai parlé aussi, on avait le 16 août. Le 16 août, c'était un des moments forts de la programmation. Le 16 août a eu lieu la présentation d'une pièce de théâtre inédite, je peux dire, parce que c'est une première création inspirée du mythique discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Les mots de Césaire ont été mis en dialogue poétique et politique avec ceux de René Dépestre et Guy Tyrolien. Trois voix caraïbéennes, trois visions du monde, une polyphonie en résistance, portée par des comédiens passionnés, tels que Marjorie Casimir, Réginald Germain et des musiciens, Luxon Casimir. Ils ont fait résonner ces textes dans toute leur puissance, leur colère, mais aussi leur beauté. Donc aujourd'hui, ce dimanche après-midi, nous vous donnons rendez-vous au Centre culturel et communautaire de Cartierville pour la première du film documentaire sur la danse traditionnelle en Haïti, réalisé par Kessler Bien-Aimé. C'est un film qui explore l'histoire, la spiritualité et, je peux dire, la symbolique de la danse comme langage de résistance, de mémoire et de fierté.
Et si tes pensées s'ajoutent à mes pensées, et si on se donne la main, peu importe d'où tu viens, si ma prière dérange pas ta prière, que ton piano croise mon banjo, chantons ce refrain, libre ensemble, pour le bonheur de l'humanité. Libre ensemble, pour un monde enfin libéré. Et si nos couleurs se mêlent comme l'arc-en-ciel, si nos divergences d'opinions nous apportent des solutions, et si les hommes et les femmes jouent à part égale, et que le nord croise le sud, chantons ce refrain. Libre ensemble, pour les enfants, pour l'avenir. Libre ensemble, pour un monde enfin apaisé.
Chaîne d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur France24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci. Welcome.
J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à toute l'équipe des épopées de musique noire.
Joyeux anniversaire pour ta 1000e émission. Joyeux anniversaire.
Merci, merci, merci de nous nourrir les oreilles et l'esprit.
Bonjour, this is Shamika Copeland and I am so excited to wish my friend Joe Farmer and the team at Radio France International for 1,000 shows.
Pour cette 1000e émission de l'épopée des musiques noires, voilà, j'ai voulu partager avec toi.
This is to celebrate and congratulate you on your 1,000th show and wishing you many, many great more shows. This is Femi Kuti from the New Africa Shrine in Lagos. Keep on giving us those good shows.
Happy anniversary on your 1,000th show.
Joe Farmer, a voice we need to hear. Loud and clear for many more years. Hey Joe, keep going. Love you.
It's okay.
Je déclare officiellement ouverte la playlist des vacances. Assurez-vous de passer de bonnes vacances en écoutant Afrique Soir et en allant sur RFI.fr.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker, tous les mardis et jeudis dans Afrique Soir.
Hello, c'est Andy 4000. Retrouvez-moi dans le mixbox de la chaîne YouTube de RFI dès maintenant. Allez, c'est parti.
Chouchou, beignet, le régal du palais.
Oh, ça suffit le monde, on remballe. Allez, on part en bateau pour la journée.
Mais bien sûr, et on peut prendre mon hélicoptère aussi si tu veux, hein.
Sur clickandboat.com, réservez un bateau en quelques clics depuis votre mobile, même à la dernière minute. Bateau à moteur, voilier, catamaran, profitez d'un choix de plus de 30 000 bateaux sur clickandboat.com avec ou sans skipper.
Click and Boat.
Cliquez, réservez, naviguez.
Nos amis d'Apéro Chic vous invitent chaleureusement à Saint-Tropez le mercredi 20 août de 18h30 à 23h. Ça promet. Soirée glamour en blanc sous les étoiles de Cabana Pool Bar qui vient d'être rénovée. Une paire de billets à la première personne qui m'écrit à popourri@cut.fm. Tous les détails sur popourrishow.com. Rendez-vous à Saint-Tropez le 20 août. Soyez-y.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Et oui, où que vous soyez, j'espère que vous passez un très bel été. Vous écoutez 40 degrés à Londres. Eh oui. Et fait très très chaud et nos sympathies et encouragements à nos amis et auditeurs en France, en Italie, en Espagne qui ont vécu une semaine caniculaire effroyable. Et oui, c'était une semaine exceptionnelle. Prenez votre mal en patience et soyez prudents. Francophonie en fête revient en force à cet automne. Cette 20e édition nous propose une programmation très riche et de haute qualité en musique francophone. Parmi les grosses pointures, le chanteur québécois très connu au Canada et en France, Claude Dubois, qui est au Panthéon québécois. Il se produira au Théâtre Paradise de Toronto le 26 septembre. Et le 27 septembre, le Théâtre Paradise de Toronto accueillera le spectacle Happy de l'humoriste Anthony Cavanagh. Spectacle qui a connu un gros succès en France et dans plusieurs pays européens. Et spectacle en plein air le 12, 13 et 14 septembre avec une vingtaine de spectacles gratuits d'artistes locaux et de vedettes nationales montant au Bentway, l'espace multifonction sous l'autoroute Gardiner à l'ouest de Fort York. On retrouvera sur la grande scène des valeurs sûres comme DJ Unipire, Welcome Soleil, Noémie et le Friendless Crew, Beau Nectar et Abel Maxwell, le groupe lauréat du prix Révélation Radio-Canada, Allo Fantôme. 20e édition de Francophonie en fête, des billets gratuits pour les abonnés de la radio. Écrivez-moi immédiatement popourri@cut.fm. Tous les détails sur francophonieenfête.com ou popourrishow.com.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre. Je peux pas supporter la misère. Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour. J'ai le sens des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut.
J'aurais voulu être un martyr. Faire mon numéro quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio. J'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours. Pour pouvoir.
eternal.
Qui dit mois d'octobre dit mois du créole. Notre partenaire de toujours, le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation KEPKA en créole, est fier d'annoncer que Sarel B, artiste multidisciplinaire et humoriste d'origine haïtienne très active à Montréal depuis 2000, est la porte-parole officielle de la 24e édition du mois du créole à Montréal. L'événement se déroulera du 4 au 31 octobre sous le thème « Créole, Lambi, Rassemblement-nous ». Mettra à l'honneur la langue, la culture, la créativité, le partage et les traditions créoles. Et comme chaque année, la belle équipe du KEPKA et CUTFM vous convie à une multitude d'événements. Du 4 au 31 octobre, le mois du créole propose cette année une programmation riche et inclusive. Concerts, spectacles, d'humour, d'ateliers et de danse, découvertes culinaires, expositions, projections, conférences et tables rondes. De nombreux artistes et personnalités de renom y prendront part. Pour toute information, www.moisducréole.ca. Je dis bien www.moisducréole.ca ou popourichaud.com. Bon mois du créole. Et je remercie chaleureusement tous nos partenaires qui ont collaboré à cette édition estivale. Merci en pile à Madame Marie Turly-Clairville, coordonnatrice du Centre culturel Image, Création, Interprétation. Nouveau partenaire, et oui, je vous invite à visiter son site web ici, trait-d'union-théâtre.ca ou popourichaud.com. Et on continue ce devoir de mémoire de l'esclavage dimanche prochain sur CUTFM. Merci à nos amis chez Francophonie en Fête. Mille merci à Apéro Chic qui vous attendent nombreux à son cocktail pour clôturer l'été en beauté le 20 août. On se donne rendez-vous sur la Côte d'Azur tout en restant à Toronto. Et merci à DJ Devora, les techniciens Hot House, France Inter, TV5 Monde, France 24. Je vous invite à passer un excellent dimanche. Bonne semaine. Que la force soit avec vous. Allez, j'ai des paires de billets pour le festival de films à Toronto qui s'en vient et aussi le cocktail de Apéro Chic. Cela vous intéresse à popourri@cut.fm. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao, ciao.
Africa, they say.
Benagino, Ibunda, Dumina. Yes, 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 ma belle Obuja, c'est d'autres yeux. No, 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 Donc elle est comme sous, qui ben, ni nam, na, ni nam. Que va te baisser, baisser, pas mal à l'éduquer. Va la trouver là. Aïe! Bonna, papa de bonna. J'ai un épisode à bison, va la mouta la hâte, Africa. Et des bandages.
Où es-tu?
Ça, c'est la question.
Deme, 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 deme,